Wie eine Bedeutung hat der Label Europäische Kulturhauptstadt? Wie eine Zukunft hat dem Projekt ESCH 2022 als Europäische Kulturhauptstadt? Darüber geht jetzt mit dem kulturschaffenden freieren Koordinator von der Lützburg Kulturhauptstadt 1995, Claude Frisoni. Gespräch wurde am Vierfeld abgezeichnet. Françoise Keller hat sich mit Claude Frisoni unterhalten.
Claude Frisoni, vous êtes auteur, acteur et régisseur. Vous étiez le directeur du Centre culturel Neumünster jusqu'en 2013 et actif au fil des années dans de nombreux domaines de la culture. Bonjour.
Bonjour.
Depuis 4 ans, vous passez la plupart de votre temps à l'étranger. Est-ce que le paysage culturel du Luxembourg ne vous inspire plus trop ?
Ah si, si, moi je le suis de très près et je continue à y participer. Je serai cet hiver au TOL et au Théâtre National. J'ai joué l'année dernière au TOL, j'écris régulièrement ou dans le jeudi où j'ai publié un livre avec Raymond Reuter et il y a 3 ans arrive un livre chez Binsfeld. Non, non, je reste très très proche du paysage culturel, je participais encore régulièrement aux réunions du Forum Culture. Simplement, j'ai un regard un petit peu plus distancié, mais je conserve et tout mon intérêt et toute mon amitié pour le milieu culturel luxembourgeois.
Vous étiez également coordinateur général en 1995, lorsque le Luxembourg était capitale européenne de la culture pour la première fois. Quelle est la plus-value, selon vous, à long terme du label capitale européenne de la culture pour un pays? C'est quand même, on en a déjà un peu parlé avant l'interview, que c'est un événement très ponctuel.
Mais ça dépend. Il y a eu des capitales européennes de la culture qui ont été, sinon des échecs, en tout cas qui sont passés complètement inaperçus et qui ont eu très peu d'incidence sur la réalité de la ville ou du pays où ça avait été organisé. Il y en a eu d'autres qui ont été d'une très grande utilité. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un événement ponctuel qui sert de détonateur ou au moins de tremplin pour ensuite s'inscrire dans la durée? Ou est-ce que c'est simplement un événement ponctuel pour se faire plaisir pendant un an, une espèce de giga, méga festival, et une fois l'année terminée, on referme la porte, on tourne la page et on passe à autre chose? C'est ça la question. Je pense, et je crois qu'on est assez nombreux à penser la même chose, que 95 a été une sorte de détonateur et que ça a été une sorte de nouveau point de départ pour envisager le développement culturel au Luxembourg. C'est toute la question. À quoi on veut que ça serve? Alors, ça peut aussi se défendre de faire quelque chose pour se faire plaisir pendant un an, un méga festival. Pourquoi pas? Mais si on a l'intention d'inscrire ça dans un développement durable de la culture dans son territoire, alors il faut l'envisager autrement. Il faut se donner d'autres moyens.
Le Luxembourg sera à nouveau capitale européenne de la culture en 2022, donc le projet ESCH 2022. Ce projet a fait la une à cause des changements personnels au sein de l'organisation plus qu'à cause du projet en tant que tel. Est-ce que le projet, d'après vous, c'est plutôt devenu une affaire politique?
Alors, je voudrais d'abord un petit peu relativiser les choses et rappeler que moi, en 1995, j'ai été nommé au mois de mars 94, 8 mois avant le début de l'année capitale européenne de la culture de 95. Pourquoi ? Parce que mon prédécesseur avait démissionné et parce qu'il était très difficile de lui trouver un successeur. Donc, ce n'était pas tout rose non plus à l'époque. Et quand j'ai pris l'affaire en main, il n'y avait pas d'équipe, il y avait très peu de sponsors, pas du tout de sponsoring. Donc, il y avait un gros chantier encore à faire. Donc, ce n'était pas tout rose. En 2007, j'ai cru entendre que Roga avait aussi à un moment menacé de démissionner. Mais il l'avait fait discrètement pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Donc, ces affaires ne sont jamais simples. Mais elles sont encore beaucoup, 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 beaucoup plus compliquées quand les politiques ne respectent pas ce que je viens de décrire. Il y a des professionnels. Je n'ai encore jamais vu un politique aller dire à un banquier comment il doit tenir sa baraque. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît le professionnalisme de ce banquier et il le laisse travailler. Après qu'il lui fasse payer des impôts, qu'il surveille, qu'il respecte le code du travail, etc., c'est autre chose. Mais en tout cas, je ne les ai encore jamais vus aller donner des leçons et dire, arriver à la BID ou à la BG et dire, allez, écartez-vous, nous, on va gérer ça. Pourquoi ils le font avec la culture ? C'est une non-reconnaissance du professionnalisme des gens qui ont à s'en occuper. Or, que je sache, les deux qui avaient été choisis par ESCH ont fait preuve de professionnalisme. D'abord, Andreas, c'est quelqu'un qui, depuis au moins 20 ans, en France comme en Allemagne et au Luxembourg, a été reconnu comme un professionnel dans le domaine. Et Janina, on connaissait sa passion et la qualité de ses interventions en tant que critique et journaliste. Pourquoi, après qu'ils avaient réussi à sauver les meubles, parce que la première erreur, ça avait été de confier à une agence la constitution d'un dossier, on ne fait pas ça. Quelle que soit la qualité de l'agence, elle n'a pas les pieds dans le terroir. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'Aix ? C'est quand même gonflé d'oser prétendre être capitale européenne de la culture quand on n'est même pas une ville moyenne, mais disons-le, une petite ville, pas reconnue sur la carte européenne, sinon parce qu'elle a toujours eu un excellent théâtre et que la Koufa essaye de faire des miracles aussi, mais il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas Lyon, quoi. Ce n'est pas Francfort, elle sera bien. Donc c'est très ambitieux. Ils ont sauvé les meubles en faisant leur beatbook remarquable. Ils se sont creusés la tête, ils ont eu l'idée du remix. Moi, j'avais dit à un moment, quand on avait demandé mon avis, un journaliste, hein, certainement pas un politique de la région, j'avais dit que pour moi, c'était dire on tourne la page de la période de la sidérurgie et aujourd'hui, notre matière première, c'est la matière grise. La matière grise, matière première du futur, c'est là-dessus qu'on va se baser pour dire cette énorme friche qu'était Belval, ça devient une espèce de bouillon de culture pour développer des initiatives aussi bien dans les arts, la culture que la recherche ou aussi les cultures industrielles, que sais-je, moi, l'animation, la musique, etc. Eux sont allés beaucoup plus loin dans l'idée du remix en mettant le social, l'évolution d'un bassin de population et le transfrontalier aussi, qui est aussi une dimension intéressante. Mais il faut se rendre compte de la difficulté quand on part d'un lieu comme Stomèche, que j'adore, hein, moi c'est mon enfance. Moi j'ai vu Brassens sur scène quand j'avais 14 ans à Aix-sur-Alzette. Le théâtre d'Aix, ça a bercé mon initiation à la culture, donc j'ai beaucoup d'affection pour cette région. Mais ne nous voilons pas la face, c'est difficile. Ils font ce travail et tout d'un coup, quelqu'un vient se mêler de tout ça avec tout ce qui représente la difficulté locale, c'est-à-dire que ce n'est pas une ville, mais plusieurs villes d'un territoire. Alors là aussi, il y en a qui se tirent la bourre. Il y a ceux qui veulent être mieux sur l'affiche que l'autre. Ceux qui disent c'est moi, c'est pas toi. Ceux qui ont des dissensions politiques avec leurs voisins. Que sais-je encore ? Je n'ai pas regardé tout ça de trop près parce que franchement, je n'ai pas envie de mettre mes mains là-dedans. Et personne ne me le demande, d'ailleurs, ça tombe bien. Mais je ne comprends pas. Moi, tout le monde m'a dit que j'étais un kamikaze en 95 d'accepter une mission aussi tard. Et en fait, ça s'est transformé en chance. Parce que j'ai pu dire aux politiques, s'il vous plaît, laissez-moi travailler. Faites-moi confiance, on fera de notre mieux avec les collègues des institutions culturelles et les travailleurs culturels et les artistes. Et ils ont été le dos au mur, presque contraints de me faire ce cadeau, de me laisser travailler. Et ils ne s'en sont pas pleins. Ils s'en sont pas pleins. Tandis qu'aujourd'hui, s'ils ne comprennent pas ça, ça leur retombera sur le dos à eux, parce que c'est eux qui devront assumer l'échec. Je trouve ça vraiment difficile, pour être un peu violent, de laisser les gens bien faire leur travail et ensuite, comme récompense, de leur dire « Écoutez, vous n'êtes pas à la hauteur, on va chercher quelque chose d'autre. » C'est mal barré, ça c'est mal le faire, c'est mal comprendre et c'est s'engager très 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 mal dans la mauvaise direction.
Donc, est-ce que vous pensez que le projet a quand même un avenir ? Est-ce que Aix 2022 va être un succès ?
Bah, pour être franc, je n'étais pas convaincu qu'il fallait faire la candidature. C'est vache hein, de dire ça, je sais bien. Mais écoutez, on a déjà été deux fois en 12 ans, je ne dis pas de bêtises, en 12 ans, capitale européenne de la culture, alors que Francfort, Bordeaux ou Naples ne l'ont jamais été. Hein. Luxembourg l'a été deux fois, 95-2007. Je me disais une troisième fois, 15 ans plus tard, je trouve que c'est un peu gonflé. Et puis finalement, quand j'ai découvert le travail qu'avaient fait Andreas et Janina, je me suis dit chapeau, parce qu'ils ont trouvé des angles pertinents pour dire ça va servir à quelque chose, une autre étape. Réussir à réconcilier Aix avec un avenir. Aix était une ville florissante parce qu'il y avait de la sidérurgie. C'était une ville où dans un quartier on parlait italien, dans un autre on parlait français, dans un autre luxembourgeois, dans un autre portugais. Les gens se retrouvaient, il y avait une ambiance particulière à Aix. Moi, j'ai même jeté ma gourme en allant faire la bringue au quartier frontière quand j'étais adolescent. Et quand j'ai traversé la dernière fois la rue du Bril, j'ai eu un sentiment de désastre. Des bistrots fermés, des maisons inoccupées, des magasins. Bon, c'est triste. Et dans leur projet, il y avait non seulement une année d'activité culturelle, mais il y avait une projection confiante dans l'avenir. Et c'est ça qui était intelligent. Et si on va dans cette direction, oui, ça peut être un succès. Parce que de l'autre côté de la frontière, il y a des villes encore plus sinistrées. Imaginez ce que veut dire Villerue, Audenlitiche, des villes où, moi j'ai connu Villerue, il y avait deux usines, 7000 ouvriers. Aujourd'hui, si les gens ne travaillent pas au Luxembourg, ils sont chômeurs, quoi. Et ça aussi, Maintenant, je sais qu'il y a un projet sur la friche industrielle de Micheville de construction d'éco-quartiers. Bon, on peut se tourner vers l'avenir avec plus de confiance en utilisant tout ce que la culture peut nous offrir pour ça. Enfin, encore une fois, il ne faut pas l'instrumentaliser en imaginant qu'elle peut faire plus que ce qu'elle peut faire. Elle est comme la plus belle fille du monde, elle peut faire que ce qu'elle peut. Mais là, j'ai repris confiance en voyant ce dossier. Et puis maintenant, j'avoue avoir commencé à perdre confiance quand je vois qu'on ne parle plus de H22 que pour des histoires de suppression. Donc, pas de perte de confiance, de politique qui se mettent en avant. Il n'y a pas d'exemple de capitale européenne de la culture qui ait marché en ayant comme gestionnaire ou directeur artistique ou inventeur de projets des politiques. Hein. Ça se saurait. Même un type comme Jack Lang, quand il a confié la capitale européenne de la culture en 89 à Paris, parce que c'était le bicentenaire de la Révolution, plus personne ne sait au monde que Paris était capitale européenne de la culture en 89. Ça a été un échec total, il ne s'est rien passé. Donc ce n'est pas aux politiques d'imaginer ça. Qu'ils fassent leur boulot, qu'ils fassent en sorte qu'on refasse vivre la rue du Bride en installant des étudiants dans les logements vides, les bistrots s'ouvriront tout seuls s'il y a des étudiants dans le coin, qu'on fasse des navettes pour aller à Belleval, je ne sais pas quoi, ils ont plein d'idées, les politiques en général. Mais surtout pas qu'ils se mêlent d'aller mettre en scène au théâtre ou jouer de la musique au conservatoire, faire du théâtre de rue dans la rue ou encore imaginer ce que sera une capitale européenne de la culture. Ils doivent être là pour donner les moyens pour que ça se passe bien. Ils ont le droit de contrôler les finances tant qu'ils veulent, de voir si c'est pertinent par rapport au projet de territoire, mais surtout, de grâce, qu'ils n'aillent pas faire le travail des autres. Autrement, demain, moi, si j'ai une fuite, je téléphone au bourgmestre d'Esch pour qu'il vienne faire le pompier à la maison. Et le plombier, il n'y a pas de raison. C'est aussi un métier. S'ils savent faire tous les métiers, qu'ils fassent tous les métiers, y compris plombier. Non, il y a des... Ils avaient fait un bon choix avec ces deux-là, et je ne parle pas pro domo. Je vais vous dire, j'ai rencontré Andreas 10 fois dans ma vie, et Janina seulement dans des conférences de presse ou au théâtre. Ce n'est pas mes cousins, ce n'est pas mes copains, ce n'est pas mes collaborateurs. C'est simplement une question de raison et d'intelligence. Quand, dans un autre côté, on commence avec un semblant d'esquisse de plan de développement culturel, qui devrait être un plan de développement durable, à faire des pas dans la bonne direction, quand on voit ce que Cox a réussi à faire du Fonds culturel national, qui pendant des décennies était une espèce de truc qui roupillait et qui ne voulait même pas se faire connaître, il y a plein de choses qui vont dans la bonne direction. Si on a un événement aussi important et qui sera regardé à l'international, on n'a pas le droit de risquer le blâmage pour des affaires qui n'en valent pas la peine.
Risquer le blâmage, donc là, pour le moment, ce n'est pas encore une blâme.
Non, on est en 20, on est en 18 pour 22, il y a le temps. Il y a le temps. Non, il n'y a pas de panique. Simplement, plus on planifie, plus on organise, plus on met en place les équipes qui se soudent, qui se connaissent, plus on a recours à des professionnels de qualité, plus on a de chances de réussir. On ne va pas tout, à chaque fois se dire on essaye de le faire en 8 mois parce que comme ça, l'urgence permet de résoudre des problèmes. Non, mais 4 ans, ça va. Pour moi, il n'y a pas le feu. Si on devient raisonnable, il n'y a pas le feu.
En octobre, il y a les élections nationales au Luxembourg. Est-ce que vous avez des attentes particulières, surtout pour le domaine de la culture?
Écoutez, je suis devenu extrêmement, j'allais dire prudent, je ne sais pas si je devrais dire pessimiste. Je me souviens des élections de 2013. Je me souviens d'un jour où j'étais très triste parce que je ne pouvais pas participer à une table ronde à l'abbaye de Neumünster parce que je jouais au Toll mon one-man show putain 35 ans. Et ce jour-là, il paraît que la table ronde a été passionnante. Il y avait des acteurs culturels, il y avait des gens du cinéma, du théâtre, etc. Et il y avait le Spitzenkandidat du LSAP, M. Schneider, qui a pris des engagements là, en disant « Oui, on a un projet culturel, on veut écouter les travailleurs culturels et les acteurs culturels et les professionnels. On va s'engager dans cette direction, etc. » Et il paraît que c'était vraiment formidable. Tous les copains qui étaient me l'ont dit. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le portefeuille de la culture a été le tout dernier à être distribué parce que visiblement, personne ne se battait pour l'avoir. Mais quand il a été question de choisir entre les sports et la culture, ils ont vite fait de choisir les sports parce que c'est plus porteur en termes de distribution de subventions et de retour électoral. Et ça m'a écœuré. Quand de l'autre côté, j'ai vu que le portefeuille, personne ne s'est battu non plus pour l'avoir, qu'il est tombé sur la tête de Mme Nagel, je ne suis pas convaincu qu'elle avait levé le doigt, mais à un moment, elle a dû tourner le dos et lui ont collé ça comme un poisson d'avril. Elle n'était pas responsable d'hériter d'un tel portefeuille. Et la grande différence avec ce qui avait précédé, c'est que quand Mme Hénicaud a été ministre de la Culture, c'était presque une exigence de sa part. Et elle savait pourquoi. Elle avait des idées, elle avait des convictions et elle avait du courage. Quand encore plus tôt dans l'histoire, et je me réfère toujours à lui, Robert Cripps s'est battu pour avoir la culture, il savait pourquoi il voulait en faire quelque chose. Ça ne doit pas être la patate chaude, le portefeuille de la culture, qu'on se refile et qu'on dit merde, lui, on va lui donner ça. Et donc, j'ai pas été très satisfait de la manière dont ça s'était fait. J'avais encore quelque chose à dire parce que j'habitais encore au Grand-Duché à cette époque. J'ai déménagé qu'en janvier 2014. Mais c'était pas formidable. Ça doit être porté par un désir et une conviction et un projet. Et donc, si aux élections d'octobre, quelqu'un remue suffisamment pour dire « mais moi, j'ai des idées, moi, j'ai la confiance du milieu, moi, je suis prêt à prendre des coups », parce que ce n'est pas un ministère confortable. On est des casse-pieds, les gens du milieu culturel. C'est connu, si on ne l'était pas, on aurait une autre passion, on ferait du golf ou du billard. Et ce qui est parfaitement respectable. Et donc, c'est quelque chose d'exposé. Mais il faut prendre le risque, parce que ça peut être aussi la plus belle des récompenses. Quand on pense que quand Mme Hénicaud a perdu son portefeuille de la culture, elle a reçu un soutien de dizaines et de dizaines de travailleurs culturels qui ont signé une lettre ouverte, que j'ai l'honneur de bien connaître, la lettre ouverte, parce que j'étais un des rédacteurs, et que parmi les signataires, on trouvait des auteurs rebelles, on trouvait des cabarettistes gauchistes, on trouvait des gens de tous bords qui n'avaient rien à voir avec l'engagement politique ou confessionnel de Mme Hénicaud. C'est quand même une sacrée récompense. Vous connaissez beaucoup de ministres qui, à la fin de leur mandat, reçoivent un hommage comme ça? Il n'y en a presque jamais, sauf dans le domaine culturel, où on se fait cramer, et ça peut être très dur et très, très cruel, ou alors on a la reconnaissance et l'hommage de cette profession, qui est quand même une profession remarquable dans un pays. Donc j'espère qu'il va y avoir quelqu'un de suffisamment conscient et inconscient à la fois, responsable et fou, pour dire « moi je le veux, mais je veux y faire quelque chose ». Parce que j'ai aucune immunité ni pour l'actuel ministre de la Culture, ni pour le secrétaire d'État, qui sont des gens charmants, que j'ai l'honneur de connaître, mais ni l'un ni l'autre ne me feront croire qu'ils en rêvaient la nuit. Ni l'un ni l'autre. J'espère que quelqu'un en rêve en ce moment.
Claude Frisoni, on est arrivé au bout de notre temps pour l'interview. Merci beaucoup pour l'entretien.
Merci, c'était un plaisir de vous avoir.
De freieren Direktor vum Neuen Münster Claude Frisoni war invité beim François Keller Gespräch gewonnen für Feld abgezeichnet.